VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président zambien était en tête de la présidentielle ce matin après le dépouillement de 85% des bureaux de vote. Selon la commission électorale, Edgar Lungu devance d'une courte tête son principal opposant, Hakainde Hichilema. Ce dernier a dénoncé la lenteur du dépouillement et a accusé le pouvoir de tenter de truquer les résultats. Au Mozambique, 6 personnes ont été tuées dans l'attaque d'une voiture attribuée à la branche armée de la RENAMO, le principal parti d'opposition mozambicain, alors que le conflit entre la rébellion et les forces gouvernementales s'intensifie depuis le mois de juillet. Selon les autorités, l'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine de 1976 à 1992, qui a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise de Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, en 1975, a intensifié ses attaques dans le centre et le nord du pays depuis le mois de juillet. La rébellion accuse, elle, les troupes gouvernementales de bombarder les montagnes de Gorongosa, où se cache le leader de la RENAMO, Alfonso Dhlakama, depuis près d'un an. Une Sud-Africaine reconnue coupable de l'enlèvement d'un nouveau-né en 1997 a été condamnée aujourd'hui à 10 ans de prison par un tribunal au Cap. L'affaire a éclaté depuis 2015 lorsque des lycéens ont remarqué une troublante ressemblance entre Zéphanie, qui entrait alors en classe de terminale, et Cassidy Nurse, une nouvelle élève de son établissement du Cap, plus jeune qu'elle. Les parents de Cassidy ont contacté la police et les tests ADN ont révélé que la jeune fille était effectivement leur enfant. Zéphanie, qui a été élevée par la kidnappeuse, est aujourd'hui âgée de 19 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Cap sur le Niger, le Mouvement national pour la société et de développement, membre de l'opposition, un parti politique qui a donc géré le Niger de 1999 à 2010, a annoncé dimanche sa décision de se rallier au camp présidentiel. Les précisions à Niamey de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé de répondre favorablement à l'appel du président de la République Issoufou Mahamadou à lancer à la presse le secrétaire général du parti Abdelkader Tijani au sortir d'une réunion qui a duré toute la journée de ce samedi. La raison qui justifie cette décision, sauvegarder l'intérêt national du pays. Le président du parti, Seni Oumarou, a été mandaté pour entamer les démarches nécessaires pour la concrétisation de cette décision souveraine. La deuxième force politique de l'opposition rallie ainsi la mouvance présidentielle un peu plus de 5 mois après la réélection du président Issoufou Mahamadou. Ce dernier avait en effet, dès le lendemain de sa victoire, souhaité former un gouvernement avec la participation de l'opposition pour faire face, disait-il, aux nombreux défis que le pays doit relever. Les partis de l'opposition avaient alors rejeté cette main tendue, comme ils l'ont d'ailleurs fait au premier mandat, même si en 2013, une partie des militants du même MNSD Nassara avait rejoint la majorité présidentielle. Cette fois-ci, c'est presque à l'unanimité que le parti de l'ancien président Tanja Mamadou décide d'aller à la majorité puisque seuls 3 des 166 responsables du parti qui étaient présents à la réunion de ce samedi se sont opposés. L'opposition politique, déjà orpheline de l'absence de son chef de file, Hama Amadou, qui se trouve en France, se trouve ainsi encore une fois fragilisée selon beaucoup d'analystes. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, la mobilisation se poursuit pour venir à bout de l'épidémie de choléra. Parmi les mesures mises en place, le lavage systématique des mains au savon avant d'accéder à certaines institutions. C'est le cas de certains hôpitaux de Bangui. Les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Quelques jours après la confirmation de l'épidémie, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. On compte déjà 16 décès liés à cette maladie pour 66 cas suspects enregistrés à Bangui et dans le centre du pays. Pour venir à bout de cette épidémie, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place des approches de prévention et de riposte. Souleymane Sow, coordonnateur du programme eau et assainissement à l'UNICEF.
Il faut s'assurer que toutes les cibles, tous les villages, toutes les embarcations, tous les quartiers qui sont considérés comme des quartiers à risque sont investis pour que des actions de prévention y soient menées.
Le choléra domine désormais toutes les conversations ici à Bangui. Selon des sources proches du département de la santé, l'épidémie de choléra qui frappe actuellement la République centrafricaine sévit également de l'autre côté du fleuve Oubangui, en face de la commune de Ndjoukou, notamment dans la région de Libye, en République démocratique du Congo. Freeman Sipila, Bangui, VO Afrique.
En Égypte, un photographe oublié en prison depuis 3 ans, Mahmoud Abel Chakou, photojournaliste de 29 ans, connu sous le pseudonyme de Chakan, avait été interpellé le 14 août 2013 alors qu'il couvrait au Caire la sanglante dispersion d'un sit-in de l'opposition islamiste par les forces de sécurité. Pour les défenseurs des droits humains, le cas de Chakan est l'un des nombreux exemples de la répression qui sévit en Égypte depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump doit présenter aujourd'hui son plan de lutte contre le terrorisme international, un discours clé dans une campagne électorale tout à fait inhabituelle ici aux États-Unis. Le point avec Timothée Donangmaï.
En dehors de la lutte contre le terrorisme, les leaders républicains espèrent que Donald Trump s'attellera à recentrer le débat sur la campagne proprement dite et à faire ainsi oublier les nombreuses controverses qu'il a déclenchées et qui brouillent son message électoral. La dernière en date était son attaque de la semaine dernière contre le président Obama et son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Tous les deux ont, par leur politique, créé le groupe État islamique, a répété le candidat républicain à divers meetings, à la grande joie de ses plus fervents partisans. Et j'ai toujours dit que Barack Obama en est le fondateur. Barack Obama, d'un, est incompétent, et de deux, souvenez-vous-en, de deux, il est le fondateur dans le vrai sens.
In a true sense.
Donald Trump soutiendra par la suite qu'il se voulait tout simplement sarcastique, mais le mal était fait. Ces déclarations ont suscité de vives réactions chez les démocrates, bien sûr, mais aussi chez certains républicains. Dimanche, l'équipe de campagne de Trump est revenue à la charge, accusant la presse de s'être livrée à la distraction. Si la dégoûtante presse me couvrait honnêtement et ne trouvait pas de faux sens aux mots, je serais en train de battre Hillary de 20%, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Une reconnaissance implicite de l'écart qui continue de se creuser entre lui et la candidate démocrate. Rien n'est perdu pour autant, assure le camp Trump. S'exprimant dimanche sur la chaîne de télévision ABC, l'un des partisans de l'homme d'affaires, le sénateur républicain Jeff Sessions, a donné un avant-goût de son plan pour défaire le groupe État islamique. Il va parler de comment restaurer notre crédibilité auprès de nos alliés et nos amis dans la région qui sont tout aussi hostiles à ce terrorisme et qui y résistent. Il va dire comment cibler vos ennemis et œuvrer avec vos amis sans déstabiliser des pays à la manière d'Obama et de Clinton. Le candidat républicain devra présenter les points spécifiques de son plan, a fait savoir pour sa part Léon Panetta, ancien directeur de la CIA et ancien secrétaire à la Défense sous l'administration Obama, qui s'exprimait lui aussi sur la chaîne ABC dimanche. Frustré par l'indiscipline de Trump dans sa campagne, d'autres républicains ont décidé de lui fausser compagnie. Certains, comme Carlos Gutiérrez, ancien secrétaire au commerce du président George W. Bush, allant jusqu'à annoncer leur soutien à la démocrate Hillary Clinton.
Et les militaires de la garde nationale ici aux États-Unis ont été mobilisés dimanche par le gouverneur du Wisconsin afin de ramener le calme à Milwaukee, où de violents heurts ont opposé manifestants et policiers américains après que les forces de l'ordre eut tué un suspect la veille. Dans la nuit de samedi à dimanche, une foule de manifestants en colère a caillassé des voitures de police et mis le feu à plusieurs commerces de la ville située à quelques 130 km au nord de Chicago, dans le nord des États-Unis. La police turque a mené aujourd'hui des perquisitions dans 3 tribunaux d'Istanbul à la recherche de plus de 170 personnes soupçonnées de lien avec le coup d'État avorté du mois dernier contre le président Recep Tayyip Erdogan. Au total, 173 mandats d'arrêt avaient été émis à l'encontre de juges, procureurs et employés de ces 3 tribunaux. Tous sont soupçonnés d'avoir des liens avec le prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'être le cerveau du coup d'État manqué, ce que l'intéressé nie. Le Japon commémore aujourd'hui la fin de la guerre du Pacifique, l'anniversaire de la capitulation le 15 août 1945, quelques jours après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Même après 71 ans, les relations du Japon avec ses voisins restent tendues à cause des exactions de l'armée japonaise et de l'ascension militaire du pays au début du XXe siècle. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a appelé à des relations tourner vers le futur entre son pays et le Japon.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.